C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Stephen Guilbeault est là. C'est Monsieur Guilbeault, bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'abord, écoutez, Luc Ferrandez là, va réagir à votre chronique tantôt. Et ce qu'il... Allô?
Au plan, vous voulez dire.
Au plan, j'ai dit à votre chronique. Je suis désolé. Va réagir au plan que vous avez présenté mardi. Ça a été abondamment commenté. Ça a été bien reçu, je dirais, chez certains groupes environnementaux. Mais Luc le soulignait, il y a l'Association canadienne des producteurs pétroliers qui l'a bien reçu. Je vais citer son vice-président, M. Abel. Là, le nouveau plan de réduction des émissions du gouvernement fédéral reconnaît que la demande mondiale pour le gaz naturel et le pétrole va se poursuivre encore pendant des décennies et que le Canada a un rôle à jouer pour fournir des énergies à faible émission. Dites-moi, monsieur Guilbeault, réflexe spontané, si l'industrie pétrolière trouve que c'est un bon plan, ça peut-tu vraiment être un bon plan?
Ben, je pense que c'est assez rare dans mon domaine qu'on réussit à plaire à tout le monde de Greenpeace aux pétrolières. Puis je veux pas dire par là que ce soit Greenpeace ou Équiterre qui ont dit des bonnes choses du plan, que c'était un plan solide, mais qui ont aussi dit qu'ils voulaient qu'on en fasse plus, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Donc c'est assez rare que ça arrive. On a vu la mairesse Plante appuyer le plan, l'Union des municipalités du Québec, l'ancien chef du Parti vert de la Colombie-Britannique et qui est un scientifique du GIEC, Andrew Wilbur, qui dit que le Canada a retrouvé son statut de leadership international. Alors, je pense que ça démontre qu'on a bien travaillé, que c'est un plan qui est à la fois ambitieux, mais réaliste, dans la mesure où nous prenons l'engagement d'atteindre les objectifs. On a un plan très détaillé qui montre comment on y arrive. Alors, ça arrive pas souvent, mais je pense que c'est possible.
OK. Le secteur pétrolier et gazier, monsieur le ministre, là, c'est le gros pollueur canadien. Là. Si je me trompe pas, c'est 26% des émissions. La cible de réduction de ce secteur-là, c'est 31%. Alors que la cible globale, c'est 40%. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenu l'industrie pétrolière et gazière au même standard que le reste de la société?
En fait, ce qu'on a fait dans le plan, c'est qu'on a utilisé plusieurs analyses pour regarder dans chacun des secteurs quel est le potentiel de réduction en termes de développement technologique, en termes de changement de pratique au cours des prochaines années. Où est rendu ce secteur-là? Alors, c'est vrai que le secteur du pétrole et du gaz va réduire de 31%, mais dans le cas de l'électricité, la production d'électricité au Canada, c'est une réduction de 87%. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, on a déjà commencé depuis plusieurs années, on a adopté un projet de loi pour interdire au Canada la production d'électricité à partir de charbon. Alors, le secteur est en train de se décarboniser. Dans le secteur du bâtiment aussi, on a commencé à mettre en place des programmes. Il y a des secteurs où c'est plus lent. L'agriculture ne réduit que d'1% d'ici 2030 parce qu'on reconnaît que le temps de changer les pratiques agricoles, le temps de mettre en place des nouvelles technologies, ça va se faire, on va commencer à le faire, mais le gros du travail va se faire après 2030. Alors, dans le cas du secteur du pétrole et du gaz, c'est 30% par rapport au niveau d'émission de 2005, mais par rapport au niveau d'aujourd'hui, c'est 40%. C'est plus de 40%. Alors, c'est un effort qu'on juge considérable pour le secteur du pétrole qui n'a jamais réduit ses émissions. C'est la première fois que ce secteur-là va réduire ses émissions de façon absolue.
OK. Pour les réductions des cibles, toujours dans le pétrole et dans le gaz, là, j'ai lu que c'est basé en partie sur une nouvelle technologie qu'on appelle de capture et de stockage du carbone, des GES. Est-ce que cette technologie-là a fait ses preuves ou est-ce que c'est encore en développement?
C'est une technologie qui est utilisée dans différents endroits dans le monde, incluant au Canada, mais il y a plusieurs pays, je pense à la Norvège, d'autres pays dans le monde qui l'utilisent. Et lorsqu'on regarde les rapports, par exemple, du GIEC ou qu'on regarde les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, ces agences internationales-là nous disent que c'est une technologie dont nous allons avoir de besoin. Cette technologie va pas régler tous nos problèmes.
Mais est-ce qu'elle a fait ses preuves? Parce que moi, ce que je lis, c'est qu'on est encore au stade du développement puis que c'est pas prouvé que ça fonctionne, c'est le stockage et la capture et le stockage.
En fait, c'est utilisé au Canada. L'enjeu présentement, c'est beaucoup un enjeu de coût. La technologie, elle fonctionne. La question, c'est est-ce qu'on est capable de faire fonctionner ça à l'échelle, de façon commerciale dans plusieurs pays. Puis on va en avoir de besoin dans le pétrole, mais on va en avoir de besoin dans le secteur du ciment, par exemple, ou de l'acier, où on ne voit pas à court et moyen terme des technologies qui nous permettraient d'amener ces secteurs-là à zéro émission. Puis c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est une des technologies qu'on propose de mettre en place, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovation qui va devoir se faire. On a certaines des réponses technologiques aux problèmes qu'on a, mais on les a pas tous, pas toutes ces solutions-là, et on va devoir travailler, continuer à encourager l'innovation et le développement.
OK, c'est vrai qu'il y a des voix qui ont salué, puis pas juste dans l'industrie du pétrole, là, il y a des groupes environnementalistes qui ont salué l'ambition des cibles, mais sur le comment, expliquez aux gens qui nous écoutent, monsieur le ministre, là, pour l'industrie du pétrole, du gaz, OK, vous voulez que les GES soient réduits d'ici 2030 de 31%, mais depuis 2005, les GES de ce secteur-là ont explosé de 137%. C'est en croissance constante depuis des années. Comment est-ce que, en 9 ans, on va réussir à réduire ça de 31%? Il me semble que c'est une sorte de mission impossible.
Je dirais mission ambitieuse. 137%, c'est spécifiquement les sables bitumineux. Le secteur du pétrole et du gaz pris dans son ensemble a augmenté de 27% depuis 2005. Ce que je vous dirais, c'est que c'est une combinaison de on essaie de trouver le bon équilibre entre la carotte et le bâton. Alors, on met en place, donc au niveau du bâton, on a mis en place, par exemple, une nouvelle réglementation fédérale pour réduire les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz, qui est un gaz à effet de serre très puissant, 28 fois plus puissant que le CO2. Mmh. On a un objectif de réduire ces gaz-là de 40 à 45% d'ici 2025. Et nous sommes sur la bonne voie d'atteindre cet objectif-là. Et on a dit, bon, ben, on va atteindre 75% de réduction d'ici 2030, ce qui en fait l'un des objectifs les plus ambitieux au monde. Mais en même temps, on investit aussi dans des technologies pour aider le secteur à réduire ces niveaux de pollution.
Le plus gros sacrifice que vous demandez aux citoyens canadiens dans votre plan de réduction des GES, là, d'après vous, c'est quoi ce plus gros sacrifice?
Moi, je sais que souvent les gens parlent de la lutte au changement climatique en termes de sacrifices, mais moi, je pense que de mieux préparer notre société à faire face aux impacts des changements climatiques, parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus. Je suis en Colombie-Britannique présentement. L'an passé, 700 personnes sont mortes dues aux vagues de chaleur. L'inondation de l'automne dernier, qui est probablement la pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays. Alors, moi, je suis pas sûr que de bien se préparer, c'est de faire un sacrifice. Je suis pas certain que d'aider les gens à aller vers des voitures électriques de plus en plus, qui coûtent une fraction d'une voiture à essence à opérer, c'est une mauvaise chose pour les gens. Moi, je pense que c'est une bonne chose, puis on va le faire. On fait une transition. Bon, on passe pas de 0 à 100 demain matin. Notre objectif, c'est qu'on soit à 20% des ventes en 2026, 60% en 2030, et 100% en 2035. Et dans le cas de l'électrification des transports, le Québec et la Colombie-Britannique sont des modèles. On a trois fois plus de ventes de véhicules électriques dans ces deux provinces-là. Pourquoi? Parce que ce sont deux provinces qui ont mis en place des mesures pour y arriver. Au Québec, on est déjà à peu près à 13%. Donc, on a fait ça en quelques années. Puis ce qu'on a fait, nous, fédéral, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la stratégie québécoise à l'époque, ben, on s'est inspiré de ce qu'a fait le Québec en électrification, puis de ce qu'a fait la Colombie-Britannique, puis on dit, ben, on va faire ça à l'échelle du pays.
Mais ce que vous dites aux Canadiens avec ce plan-là, c'est qu'on peut faire la transition énergétique sans qu'il y ait de sacrifices demandés aux citoyens.
Ben, tout à fait. Moi, je pense que notre objectif, c'est de créer une société où il y a moins de pollution. Je pense que c'est pas, on veut plus d'espace vert dans nos villes, plus plantation d'arbres, évidemment, en ville, mais un peu partout à travers le pays. Donc, on travaille beaucoup avec les municipalités. Je le disais, l'Union des municipalités du Québec a salué le plan, la mairesse Plante également, parce que il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire au niveau fédéral. Mais ce qu'on voit dans le plan d'hier aussi, c'est qu'on veut travailler avec les municipalités, on veut travailler avec les provinces, on veut travailler avec les Premières Nations. On veut travailler aussi avec le secteur privé.
Est-ce que, je sais qu'au large de Terre-Neuve, là, le projet Baie du Nord, là, il y a du forage pétrolier. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher ce pétrole-là dans un contexte où on veut réduire nos gaz à effet de serre d'ici 9 ans?
Ben, Nous, le plan qu'on a présenté hier, je disais, se base sur plusieurs sources de données, notamment la Régie de l'énergie du Canada qui a publié une étude un peu avant les fêtes qui montre que la production pétrolière va se poursuivre au Canada, mais qu'à partir de à peu près 2032, ça va commencer à décliner. Puis l'Agence internationale de l'énergie dit quelque chose d'à peu près semblable. Et aujourd'hui, là, on consomme au niveau mondial 90 millions de barils de pétrole par jour. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour arriver à éviter qu'il y ait des changements climatiques catastrophiques, ça va baisser à 25 millions. Alors, il va rester du pétrole en 2050, mais il va en rester beaucoup moins. Et le pétrole qu'on va consommer, ça devrait être un pétrole, je dirais, entre guillemets, sans émission, sans pollution. C'est-à-dire qu'on va trouver, on va avoir des technologies pour compenser, pour séquestrer le CO2. Mais c'est certain qu'on va en consommer moins du pétrole. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, la vitesse, c'est à quelle vitesse cette production-là va se réduire, puis il va falloir aussi que le pétrole qu'on consomme soit un pétrole qui émet le moins de gaz à effet de serre possible.
Mais je vais vous poser la question plus directement. Le projet Terre-Neuvienne de Baie-du-Nord, est-ce que vous allez l'autoriser ou pas?
C'est un projet qui est complexe. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a fait un rapport pour moi, le ministre de l'Environnement. Donc, je suis en train d'en prendre connaissance. Il y a beaucoup d'éléments à revoir. Je veux bien faire mes devoirs, mais il y aura une décision sur ce projet-là au cours des deux prochaines semaines.
Là, je vais vous poser une question qui est un petit peu plate, là, mais est-ce que le militant Stephen Guilbeault aurait aimé la réponse que vous venez de me donner comme ministre?
Sur le projet de Baie-du-Nord?
Oui.
Je pense que les gens qui ont suivi mon parcours de militantisme pourraient dire que j'ai toujours essayé d'être le plus pragmatique possible et que je pense que c'est difficile de faire dans l'absolu, dans ce qu'on fait. Les gens parfois voudraient dire que c'est blanc ou c'est noir. Dans notre société puis dans la vie en société, c'est beaucoup, beaucoup dans des tons de gris. Et je pense que le plan qu'on a présenté hier montre très clairement comment on fait pour arriver à atteindre nos objectifs en 2030. Ce plan-là repose sur des études qui montrent qu'il va y avoir une production pétrolière au cours des prochaines années, une augmentation légère de la production pétrolière au Canada au cours des prochaines années. Mais nous allons mettre en place un plafond sur la pollution. Alors que la production augmente, qu'elle diminue à la limite, le plafond sur la pollution va faire en sorte que on plafonne, puis plus ça va aller, plus le plafond va diminuer pour arriver à faire en sorte que ce secteur-là atteigne ses cibles et que le Canada atteigne ses cibles. Alors, le plan, il ne dépend pas d'un seul projet. Il ne dépend pas non plus. Les gens ont dit, mais là, la semaine passée, vous avez dit que vous allez aider l'Europe, vous allez augmenter la production de 300 000 barils par jour pour aider l'Europe. Ben oui, on va aider les Européens parce qu'ils sont en train d'envisager de manquer de diesel pour le transport des marchandises pour l'hiver prochain. Ils vont manquer de gaz pour le chauffage. Alors, c'est sûr qu'on va les aider, mais c'est pas 300 000 barils sur une production de 5 millions au Canada qui va faire une différence dans notre plan de lutte au changement climatique. On a tenu compte de ces éléments-là. Et c'est pas un projet ou un autre qui va venir dérailler le plan de lutte au changement climatique qu'on a mis en place.
Monsieur le ministre, merci. Bonne soirée.
Merci beaucoup. À bientôt.
À la prochaine. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Je veux pas être prophète de malheur, mesdames et messieurs, mais je pense que la pandémie, d'une part, est pas morte, puis même qu'elle reprend de la vigueur. D'abord, il y a, appelons ça, les preuves anecdotiques. Là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque jour, j'entends des histoires de contamination. Je vais vous raconter juste ma journée d'aujourd'hui, ok? Ma journée COVID, si on veut. Là. Comme vous le savez, peut-être que vous le savez pas, là, mais j'ai manqué une semaine, il y a deux semaines, trois semaines, là, et c'était à cause de ça. J'ai eu un diagnostic positif à la COVID, et d'abord, texto, j'ai changé des textos avec notre recherchiste Jessica Leblanc. Elle est en isolement à la maison, positive depuis lundi. J'avais un Zoom ce matin, réunion en Zoom pour deux hommes en or, ma co-animatrice Rosalie Bonenfant et elle aussi malade. Elle a un résultat positif. Je suis en route vers Cogeco pour animer l'émission. J'apprends que notre réalisateur de l'émission Deux Hommes en Or, Mathieu, est lui aussi positif. Après ça, j'arrive dans le stationnement, j'écoute les nouvelles à la radio, on apprend qu'il y a une dizaine de députés à l'Assemblée nationale, dont Geneviève Guilbeault, qui sont positifs. Ça veut dire que Mme Guilbeault, vice-première ministre, est positive. Et le premier ministre, François Legault, jusqu'aux dernières nouvelles, qui est en isolement, lui aussi est positif. Et j'ai pas fini. En bon techno-dépendant, je marche vers la station. Et là, je regarde mon compte Instagram. Les deux premières stories qui apparaissent, ben il y a l'humoriste Arnaud Soli, qui est positif, qui l'annonce. Et ensuite, l'animatrice chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin, qui elle aussi positive. Ça, c'est avant midi. Et c'est une personne. Et ce que j'entends, ce que je vois sur mes médias sociaux, les tantôt quand on en a parlé en début d'émission, les gens nous écrivaient, c'est un peu l'hécatombe. Mais encore là, on est dans l'anecdote, OK? C'est pas scientifique. Ben aujourd'hui, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a fait des prédictions, des prévisions là qui sont assez, inquiétantes pour la suite des choses. On pourrait atteindre les 200 nouvelles hospitalisations par jour si la tendance se maintient. On va parler avec Gaston Dessert, qui est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Docteur Dessert, bonjour.
Bonjour.
Donc, ce que les gens constatent dans leurs entourages, ça se vérifie dans les chiffres présentement.
Ah, tout à fait. Ce qu'on voit dans les chiffres, dans plusieurs indicateurs, c'est que tout est à la hausse. Et aujourd'hui, l'INSPQ a envoyé un message au ministère en disant, écoutez, à la lumière de tout ce qu'on voit depuis le milieu du mois de mars, là, clairement, on est rendu dans cette sixième vague-là. Les indicateurs en termes de travailleurs de la santé malades, taux de positivité, nombre d'hospitalisations atteintes dans les différents groupes d'âge, dans les différentes régions, tout ça est au rouge et donc on est rendu vraiment là avec une très bonne certitude là que la sixième vague s'est installée au Québec.
OK. L'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, prévoit 200 nouvelles hospitalisations par jour si la tendance se maintient d'ici deux semaines. Ça veut dire quoi comme pression sur les hôpitaux?
Évidemment, ça c'est 200, là, quand on parle de 200 nouvelles hospitalisations, c'est des chiffres là, qui sont assez considérables. Maintenant, à travers les les semaines, je vais recommencer au début. Vous savez, à l'automne, on disait il faudrait jamais dépasser 800 cas par semaine parce que ça va être hospitalisé en même temps, là, parce qu'on serait vraiment mal pris. Évidemment, avec la vague qu'on vient de passer au début de janvier, on est monté bien au-delà de ça, même si les chiffres, là, incluaient non seulement les gens qui étaient hospitalisés pour COVID, mais avec COVID. D'avoir 200 cas hospitalisés, ça rajoute beaucoup au niveau de la pression pour le système de santé. Mais le gros problème, c'est qu'en même temps qu'on a plus de cas, là, on a des travailleurs de la santé qui sont touchés eux-mêmes. Et on augmente la demande et on diminue le nombre de travailleurs dans différentes unités qui peuvent recevoir les patients. Ça rend les choses quand même un peu plus compliquées là, parce que le nombre de travailleurs de la santé qui doivent s'absenter est élevé et à la hausse.
OK, c'était une hausse qui était attendue. Le directeur de la santé publique, Dr Boileau, l'a dit. On le sait que les cas vont remonter parce qu'on a rouvert les valves, parce que on permet aux gens d'avoir beaucoup plus de liberté, disons, qu'aux fêtes l'année passée. Est-ce que ce que l'INES est en train de nous dire, c'est dans les attentes ou si ça les dépasse?
Non, je pense que c'est dans les attentes. Il y a eu du travail qui avait été fait aussi à l'INSPQ, là, qui a été mis sur le site web il y a déjà quelques semaines de modélisation et les chiffres de remontée là collent assez bien là à ce que l'INES vient de sortir aussi là.
OK. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est inattendu?
C'est pas inattendu. Ce qui est toujours difficile lorsqu'on prévoit, c'est de se dire comment la population va réagir. Est-ce que avec les assouplissements, les gens vont dire non seulement je veux avoir des contacts, mais je veux rattraper le temps perdu et donc je veux avoir beaucoup plus de contacts qu'en une situation normale. Alors, par exemple, la modélisation qui a été faite par le docteur Brisson disait si on retourne à 80% des contacts qu'on avait avant Noël, ou si on retourne dans un scénario pessimiste à 100% des contacts qu'on avait avant Noël. Mais on pourrait très bien avoir plus de contacts encore que ce qu'on avait avant Noël, mm-hmm. et là, la vague qu'on traverserait va être plus grosse. Alors, ça, j'allais dire, c'est les limites de ce qu'on peut prédire, parce qu'on ne sait pas exactement comment les gens vont réagir, vont décider de d'augmenter leurs contacts. S'ils augmentent beaucoup leurs contacts, ben évidemment, la transmission est plus forte. Puis, quand un enfant rentre dans la maison avec l'infection, ben ça se transmet. Je dis un enfant, mais c'est vrai de n'importe qui. Là, dans un foyer, quand quelqu'un a une infection à Omicron, ben les autres ont des grandes chances de l'attraper. Alors, actuellement, je pense que ce que vous avez décrit là dans la partie anecdotique de votre introduction, ça reflète très bien là, ce qui se passe.
Vous répondez quoi aux gens, disons, aux sceptiques qui disent, écoutez, vacciné, pas vacciné, les gens le pognent quand même?
Ben, je pense que c'est sûr qu'on voit là que avec l'arrivée de l'Omicron, il y a eu beaucoup de monde qui ont attrapé l'infection malgré deux puis même trois doses de vaccin. Ce qu'on constate, c'est quand même que la vaccination réduit considérablement le risque d'aboutir à l'hôpital. Alors ça, c'est le bon effet de la vaccination, mais c'est certain que la vaccination, on aurait aimé qu'elle protège contre même l'infection, mais comme le virus Omicron est quand même assez différent du virus initial avec lequel on a bâti le vaccin, ben, j'allais dire, c'est une des limites là, de l'outil, là. C'est qu'il réussit moins bien à protéger contre l'infection et il y a beaucoup de monde qui sont symptomatiques, mais beaucoup moins qu'il l'aurait été s'il n'y avait pas eu ces vaccins-là.
À 200 nouvelles hospitalisations par jour, là, ce sont les prévisions de l'INES. Est-ce que on risque de se rendre en quelques jours aux limites de la capacité d'hôpitaux ou il y a quelque chose que je vois pas dans les chiffres là, qui est rassurant?
C'est sûr qu'on s'attend pas à ce que la vague actuelle soit une vague très longue et certainement elle va être moins abrupte que celle qu'on a vécue là, à la fin décembre, début janvier. Comme je le disais tout à l'heure, si on parlait qu'avoir 800 personnes à l'hôpital à l'automne, ça nous apparaissait déjà être difficile à gérer, ben c'est clair qu'on est actuellement dans un niveau d'hospitalisation qui est important. Et oui, il va avoir des tensions. Il y a des moments où, comme je le disais, là, en additionnant les nouveaux cas et en soustrayant de la force de la main-d'œuvre, de la force de travail, ben ça va être un peu compliqué. Mais je pense que actuellement le réseau s'est préparé à cette vague-là, mais ça va quand même être compliqué.
OK, mais quand vous regardez les chiffres, docteur Dessert, là, est-ce que vous êtes optimiste pour le prochain mois?
Je pense qu'on peut dire que le prochain mois va être un mois qui va être difficile.
C'est drôle parce que je vous écoute, puis j'entends pas les mêmes mots dans la bouche du gouvernement, que ce soit Dr Boileau ou M. Dubé.
Ben, je suis pas sûr qu'ils disent nécessairement des choses si différentes, là, mais c'est certain que quand on prend le nombre de cas qui va arriver, souvent on oublie de mettre dans le grand tableau quelle va être la main d'œuvre pour le recevoir. Je pense que là, le nombre de travailleurs de la santé touchés est tellement grand que ça déstabilise beaucoup, là. Mais ceci étant dit, l'optimisme, si je peux l'appeler comme ça, de M. Dubé, c'est parce que avec ce qui s'est produit à la fin décembre, début janvier, le réseau a quand même montré qu'il était capable de gérer, c'était compliqué, là, mais il était capable de gérer des hausses d'hospitalisation considérables et que dans la vague actuelle, on s'attend pas à ce que ça monte aussi haut et à la lumière de ça, on se dit, bon, on va être capable de travailler, passer au travers sans qu'il y ait de catastrophe.
Ben, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Dr Dessert.
Merci, bonne journée.
Salut, docteur Gaston Dessert, médecin conseil et aussi épidémiologiste à l'Institut national de la santé publique. Nancy Audet est journaliste et auteure du livre biographique « Plus jamais la honte », elle est marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Elle va nous parler d'un nouveau programme pour aider les jeunes de la DPJ à faire face à l'âge adulte. Salut Nancy.
Allô Patrick.
Donc, tu es ambassadrice du projet pilote là, par l'Association des grandes frères et grandes sœurs et on lance un appel pour trouver des nouveaux mentors bénévoles.
Ben oui, justement, là, j'écoutais M.C. Gilles, mais il me semble qu'il serait un bon mentor, lui, pour un jeune. En tout cas, ça, le jeune apprendrait à rigoler.
Envoyez-moi un courriel. Envoyez-moi un courriel.
Oui, je me charge de ça. En fait, Patrick, ça fait déjà quelques années qu'on y pense parce que tu le sais, tu connais les problématiques de la DPJ. Il y a plus de 5000 jeunes par année qui sortent du système et cette transition-là est difficile. On s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative qu'on peut mettre en place pour venir les aider? On a pensé à trouver des mentors pour eux. Des gens qui vont avoir envie de vivre une relation, de les aider à grandir, de vivre cette fameuse transition, qui vont avoir envie de faire des activités avec eux une fois par deux semaines, qui vont accepter aussi, tu sais, que le jeune ait le numéro de téléphone dans la poche, un numéro précieux qu'on peut appeler quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand on a besoin d'avoir de conseils. Et grand frère, grande sœur donc du Québec a décidé de se lancer. Donc, on cherche en ce moment des mentors partout à travers le Québec. Il y a 12 régions qui vont être desservies. Si ça vous interpelle, vous faites partie de ceux qui me disent « Nancy, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Mais c'est un très beau programme.
Mais c'est vraiment s'investir, ça, Nancy, parce que, tu sais, y a des gens qui, puis c'est parfait, là, c'est très utile, vont faire des dons, par exemple, à la Fondation de la DPJ, des jeunes de la DPJ. Mais là, il s'agit de s'investir personnellement, là.
Oui.
C'est autre chose.
C'est autre chose. Mais je trouve que c'est entre faire juste un don et entre devenir famille d'accueil, c'est comme s'il n'y avait rien entre les deux. Il y en a des gens qui ont envie de s'investir auprès des jeunes et puis il n'y avait pas un programme qui existait pour leur permettre de le faire. Donc, moi, je le suis, Patrick, grande sœur, depuis 10 ans. Je le suis pour 2 adolescents. Et souvent, les gens me disent « Ah, ils sont chanceux ». Mais moi, je dis aux gens « C'est moi qui est chanceuse ». Parce que ce que j'ai réalisé au cours des 10 dernières années, mon grand garçon, il avait 8 ans, il en a 18. On a célébré son anniversaire la semaine passée. Et j'ai autant grandi que lui, sinon plus à travers cette relation-là. J'en sors, moi aussi, gagnante. Il m'a permis de grandir cet enfant-là. Et tout ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années, autant les hauts que les bas, m'ont ouvert les yeux sur un paquet de choses. Et je me rends compte que de tendre la main, ça peut faire toute la différence dans la vie d'un enfant. Tu sais, Patrick, je lisais, il y a une étude puis qui disait que pour qu'un enfant puisse s'épanouir vraiment, ça lui prenait 5 adultes significatifs dans sa vie. Des parents, grands-parents, oncles, tantes, amis de la famille, enseignants, entraîneurs. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en ce moment dans les centres de réadaptation, ce qu'on appelle les centres jeunesse, qui ont même pas un adulte significatif dans leur vie. Donc, vous comprenez que quand ils sortent, ils sont tellement déjà désavantagés, ils n'ont pas de réseau. Aussi, ils n'ont pas eu la chance de développer toujours des relations interpersonnelles fortes. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation, tu le sais, c'est une grosse problématique. Donc, si en plus il n'y a pas d'adultes dans leur vie pour leur tendre la main, c'est difficile. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont dire, tiens, je vais devenir cet adulte significatif dans la vie d'un enfant qui en a besoin. En fait, c'est un programme 16-21, c'est important de le dire, là. C'est vraiment pour les 16-21 ans, des jeunes qui sont soit en ce moment sous la direction de la protection de la jeunesse ou qui sortent du système et qui ont besoin d'un coup de main.
OK, Nancy, en terminant, on vise pour ce programme de mentors-là, là, les adultes de 25 ans et plus, on va vérifier les antécédents judiciaires, les candidats vont être évalués et formés. Les gens qui seraient intéressés à devenir grand frère, grande sœur pour des jeunes de la DPJ peuvent se renseigner où?
sur le site Internet de Grands Frères Grandes Sœurs du Québec. Vous allez voir, c'est très facile. Allez sur la page et en haut, là, vous allez voir le premier onglet, c'est « Devenir bénévole ». Vous cliquez là-dessus, vous allez remplir un formulaire et à partir de là, on va communiquer avec vous. Et je le répète, c'est un peu partout au Québec, là. Donc, si vous avez ce désir-là de faire la différence, ben, je vous invite à le faire. Le processus est un peu long, c'est normal, hein. Il faut s'assurer que le jumelage est bon. Mais d'expérience chez Grands Frères Grandes Sœurs, c'est très rare que ça ne fonctionne pas. Et d'expérience, il y a beaucoup aujourd'hui d'adultes qui sont encore en contact avec leur grands frères, grandes sœurs des années plus tard et qui leur présentent leur enfant, qui demeure une figure importante dans leur vie. C'est souvent des relations qui durent très longtemps. Donc, j'espère que l'appel sera entendu.
Ben, merci beaucoup de porter cet appel-là, Nancy. On s'en reparle. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Salut. Sur Google, là, je suis allé voir, vous tapez « grand frère, grande sœur », vous tombez tout de suite sur la page de cet organisme et vous allez pouvoir trouver l'onglet là, dont Nancy parlait.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc, l'ancien président Donald Trump a fait des siennes aujourd'hui. Il a demandé de l'aide à nul autre que Vladimir Poutine dans le but d'avoir de l'information compromettante sur le fils de Joe Biden.
Et commence à attirer la sympathie des gens en demandant de l'aide à la personne la plus aimée en ce moment sur la planète. Hein?
Écoute... Oui, mais lui, il a toujours aimé M. Poutine.
C'est peut-être pas le bon moment pour rappeler cette relation d'amour
c'est
ou cette romance.
C'est toujours le bon moment.
Mais... Écoute, c'est pas moi qui conseille Donald Trump, alors il peut bien faire ce qu'il veut. Mais bref, ce qui s'est passé, pour remettre en contexte, si les gens n'ont pas vu le fameux extrait que je vais vous faire entendre dans un instant, Donald Trump était en entrevue dans une chaîne que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Real America's Voice, qui fait partie de toute la bande des Newsmax, One American News Network et tout ça, qui sont de la droite américaine. Bref, dans l'entrevue, il a voulu parler de Hunter Biden. Hunter Biden, c'est qui? C'est le fils de Joe Biden. Et il y a vraiment depuis des années, il tente d'avoir de l'information sur Hunter Biden, à tel point qu'il y a même eu une enquête, je rappelle, en destitution, entourant tout ça parce qu'il aurait fait une pression politique sur qui? Sur le président Zelensky de l'Ukraine, tout est dans tout,
que
Patrick.
Personne ne connaissait ou presque.
Et voilà, et voilà. Alors, parce qu'on Hunter Biden, bon, est pas blanc comme neige. Il y a une enquête fédérale. On pourra d'ailleurs s'en reparler si tu le souhaites. Mais quand même, ça, c'est le contexte pour vous expliquer dans quel état d'esprit était Donald Trump dans cette entrevue. Et je vais le traduire après, mais juste pour mettre en contexte encore une fois, il a un message pour Vladimir Poutine au sujet d'un montant d'argent donné par la femme du maire de Moscou. Pour les gens qui comprennent pas bien l'anglais, on pourra traduire aussi par la suite.
And one thing while I'm on your show, as long as Putin now is not exactly a fan of our country, let him explain where did, because Chris Wallace wouldn't let me ask the question, why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for, that's a lot of money. She gave him $3.5 million.
Écoute, il y a eu beaucoup de spéculations autour de Biden, du fils de Biden, et M. Trump s'est accroché à ça pendant le débat, puis tantôt, dans l'extrait qu'on a entendu, il dit « on m'a pas laissé poser la question au débat, etc. » Écoute, il y a beaucoup de spéculations, les faits sont pas aussi clairs que les spéculations.
Non, tout à fait. Et là, il y a de plus en plus d'informations quand même sur Hunter Biden. Il y a une enquête au fédéral sur le fils, sur du blanchiment d'argent, de la fraude, tout ça. Alors, les enfants des deux derniers présidents sont peut-être pas les plus, disons, les plus clean, hein, les plus blancs comme neige. Alors, il y a quand même une enquête qui se fait en ce moment. Mais quand même, au début de la clip, il dit « Pendant que Vladimir Poutine n'est pas le plus grand fan des États-Unis, on pourrait en profiter pour lui demander de l'information sur Hunter Biden. »
Ben, écoute, ça nous ramène à quand il était en campagne électorale, dans la campagne présidentielle de 2016, là, quand il était opposé à Mme Clinton, puis qu'il avait dit « La Russie, si vous m'entendez, si vous avez des informations, ben allons-y, on est dans la même lignée. »
Oui, voilà, et j'ai l'extrait, Patrick, de ce que tu dis. On peut l'écouter à l'instant.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing.
Tu sais, c'est le principe de demander à une puissance étrangère qui est pas... Déjà là, que la puissance étrangère en question, Valérie, soit amie ou adversaire...
Exactement.
C'est sans précédent dans la vie politique américaine d'avoir recours à des informations peut-être dénichées, peut-être pas, par les Russes pour influencer la politique domestique.
Oui, ça, c'est la première des choses, parce qu'en 2016, on était en campagne électorale et on voulait avoir de l'information compromettante. On demandait à une puissance étrangère, elle a aussi demandé à la Chine d'avoir de l'information sur Mme Clinton, de l'information compromettante, la même chose qu'il a demandé en Ukraine. Et là, on demande ça aussi et on rajoute une couche de plus avec le contexte actuel où Vladimir Poutine, en ce moment, est en train de bombarder qui? Un allié des États-Unis et où plus de 80 % de la population se dit que Vladimir Poutine est l'ennemi numéro un. Les gens sont derrière le président ukrainien. C'est assez particulier.
Mais je te rappelle qu'au début de la campagne russe, monsieur Trump trouvait que c'était génial ce que monsieur Poutine avait ourdi autour de l'Ukraine. OK, mais est-ce c'est pas un peu risqué parce que tu l'as dit là, il fait pas mal l'unanimité contre lui monsieur Poutine même dans la droite américaine ces jours-ci.
Oui, c'est risqué, surtout pour les républicains qui en ce moment sont au pouvoir. Parce que Donald Trump est toujours, on a l'impression, en campagne pour 2024, ou je dirais même peut-être encore en campagne pour 2020, parce que en théorie, il a gagné, mais il est toujours pas président. Mais il est dans cette optique-là et il ne pense qu'à lui et sa victoire, de ce que j'en comprends. Si j'ai analysé un peu ce qu'il fait en ce moment en demandant cette information-là, mais les autres républicains qui sont, eux, au contraire, derrière le président Biden, à dire Vladimir Poutine, c'est l'ennemi de la planète, pratiquement. On doit être plus dur. On doit même durcir le ton face à lui. Et tu as un peu le leader de ton parti qui est encore très présent, qui dit, ben, écoute, on va lui demander de l'aide en plein milieu de cette guerre-là. Eh bien, en théorie, dans n'importe quel contexte, ça ne se fait pas, mais tu sais, on est un peu dans un univers parallèle pour certaines choses, mais je pense pas que ça aide non plus, parce que même si Donald Trump, bon, a quand même une base très, très importante, les gens, de façon générale, ont vraiment, comment dire, quitté un peu le navire quand on a vu qu'ils traitaient Vladimir Poutine de génie. Il y a des gens qui ont dû patiner pour pouvoir défendre l'ancien président. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des excuses quand c'est comme ça un moment enregistré à la télé, pas des oui-dire ou juste des reportages de journalistes.
Et parlant de Donald Trump, ben, il y a des journalistes qui ont mis la main sur ses relevés téléphoniques lors de l'insurrection du 6 janvier 2021. Et il y a un silence radio qui dure 7 heures, qui soulève beaucoup de questions.
Et oui, et dans le moment le plus même violent de l'insurrection, on a 11 pages de relevés téléphoniques, c'est-à-dire Donald Trump a appelé qui, à quel moment, on a aussi les allées et venues, quand est-ce qu'il rentre dans le bureau ovale, quand est-ce qu'il en sort, quand est-ce qu'il va dans le Rose Garden. Alors tout ça, c'est de l'information que le comité du 6 janvier a eu le droit d'avoir. Et là, pendant 7h34, si je me trompe pas, on n'a pas d'informations sur les appels de Donald Trump. Le problème, c'est qu'on sait qu'il a téléphoné à plusieurs personnes, dont Kevin McCarthy, qui est le leader de la minorité à la Chambre des représentants, Mike Lee de l'Utah aussi. Il aurait aussi téléphoné à Mike Pence, l'ancien vice-président, pour faire pression pour qu'il renverse, je le rappelle, le résultat de l'élection. C'était la journée de la certification de l'élection il y a un peu plus d'un an. Alors bref, avec quoi il a téléphoné? Et là, il y a des gens qui ont les pistes de réponse, les fameux burner phones. Et c'est là qu'on rentre un peu dans la série télé, là. Écoute, des téléphones prépayés, des téléphones à carte.
OK, un burner phone, là, dans le milieu criminel, Valérie, je vais peut-être te surprendre. Là, le terme au Québec, c'est un téléphone niaiseux.
Ah oui, j'ai jamais entendu.
C'est un téléphone niaiseux, donc c'est un téléphone alternatif. Les vendeurs de drogue se servent de ça. C'est un téléphone, comme tu as dit, là, prépayé, qui est supposé d'être plus difficile à retracer, etc. Donc la question, c'est est-ce que le président des États-Unis avait un téléphone niaiseux quand il était à Maison-Blanche?
C'est ça. Écoute, je me remets pas de l'expression, mais je vais appeler ça un burner phone, je pense, pour le reste de la chronique. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ces téléphones-là? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'utiliser ça quand on est le président des États-Unis, qu'on a des lignes sécurisées? La question se pose. Et là, les gens tentent de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là. On a quand même des appels de confirmer aussi à Rudy Giuliani, qui était son avocat à l'époque, Steve Bannon, qui était son conseiller. Mais là, on veut trouver qui sont ces personnes non identifiées. Et je peux te dire que les journalistes en ce moment travaillent très, très fort pour trouver cette fameuse liste qui est en quelque part, on le sait d'un autre côté, là, parce que Kevin McCarthy a donné des entrevues lors de l'insurrection en disant « je viens de parler au président ». Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il faisait? Comment qu'il faisait? Il fonctionnait pas par texto. Il fonctionnait par Twitter en partie, mais il appelait les gens. C'est quelqu'un qui appelait fréquemment les gens quand il avait à réagir à quelque chose. Alors, c'est impossible que pendant plus de 7 heures, pendant qu'on vivait une crise du jamais vu, il n'a pas parlé à personne pendant qu'il était dans le bureau ovale.
OK. Et parle-nous de Joe Biden qui a signé une loi qui déclare le lynchage comme étant un crime fédéral. Il me semble que ça arrive un peu tard dans l'histoire.
Oui, lynchage qui est un peu les exécutions publiques. Hein. Je veux pas rentrer dans les détails extrêmement dramatiques, mais quand même, on éliminait sans procès des Afro-Américains, entre autres aux États-Unis, surtout des Afro-Américains. Là, c'est vraiment associé à tout ce qui est la ségrégation et autres et avant. Donc, c'est de dire pourquoi ça a pris, écoute, plus de 100 ans, plus d'un siècle et 200 tentatives à la Chambre des représentants ou au Sénat pour pouvoir qu'on accepte finalement de mettre ça un crime fédéral. Et c'est la symbolique qui est derrière qui est très importante parce qu'on s'entend que c'est pas à tous les jours qu'il y a quelqu'un qui va prendre un Afro-Américain dans la rue et qui va lui faire son procès de cette façon-là. Mais il y a quand même eu un lynchage des temps modernes avec Ahmaud Arbery, je t'en ai parlé, quand il y avait trois hommes blancs qui le poursuivaient à bord d'un véhicule avec des armes à feu et qui l'ont carrément éliminé. On pourrait dire
c'était un lynchage. Ben oui.
Exactement, parce qu'on a fait son exécution et son procès dans le même moment sans qu'il y ait des autorités. Bref, ça ne se fait pas. Et là, c'est quand même une réussite pour des gens qui ont eu par le passé, peut-être même des ancêtres, des gens dans leur famille lointaine qui ont été victimes de lynchage. Et il y a eu trois personnes qui ont quand même décidé de ne pas voter pour cette loi-là. Mais sinon, c'était l'unanimité au Sénat. Et Joe Biden, dans une grande symbolique, qui a quand même signé cette loi-là, qui fait que c'est un crime passable de 30 ans de prison s'il y a lynchage d'une personne aux États-Unis.
Merci Valérie. On va se retrouver plus tard cette semaine.
Merci, bye bye.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.